Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, 22h à Paris, 23h59, minuit même désormais à Doha. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast, bienvenue dans l'After Intégrale Coupe du Monde sur RMC, en direct du studio ici au Qatar, autour de moi à Paris, Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
Salut tout le monde, salut les amis.
Kevin Diaz est là également, salut Kevin.
Hola vive. Salut à tous.
La qualification du Portugal pour les quarts de finale, comme en 2006, qualifié pour les quarts de ce mondial, ce sera face au Maroc. Qualification historique pour les Marocains. On va en parler, débriefer les réactions à venir également. Votre avis sur ce duel samedi à 16h. Et la prestation étincelante des Portugais il y a quelques minutes sur RMC. L'équipe de France au programme aussi. L'avis de Daniel. Restons calmes et raisonnables, doucement sur l'enflammade autour des Bleus. On en parlera à partir de 22h40. Kevin, toi, tu estimes que Didier Deschamps aura réussi son mondial, même s'il sort en demi-finale. Et puis, une affaire qui agite l'onderno médiatique ici, et pas seulement ici, en Algérie, au Cameroun également. L'affaire Samuel Eto'o a-t-il dépassé les limites en assénant un coup de pied à un blogueur algérien qui le provoquait sur le thème du barrage Cameroun-Algérie de mars dernier? On va en parler à partir de 23h20. Vous pouvez nous appeler, supporter camerounais, algérien, au 32-16. Et puis Lyon également au programme, toujours pas vendu. Flou artistique total, ultimatum demain. Edouard G sera aussi avec nous pour évoquer l'actu lyonnaise avant une éventuelle vente de l'OL à John Textor. C'est parti pour l'After Intégrale Coupe du Monde en direct de Doha. Vous pouvez nous appeler au 32-16, bien sûr, le hashtag RMC Live et l'application RMC Sport pour Direct Studio, vos messages. Je rappelle qu'on est aussi en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Messieurs, commençons donc par la qualification du Portugal. C'est tout chaud, Nico Villas est avec nous. Salut Nico.
Hola viva.
Ça va Nico?
Bah écoute...
Je suis bien entouré Nico.
T'as passé une soirée sereine? Ouais, t'es entouré.
Il n'y a que de la joie autour de moi.
Ah ouais, là c'est difficile d'être plus serein là quand même.
Mais cachez votre joie les gars, hein. Ça s'entend pas.
C'est un huitième de finale, hein. T'es pas non plus.
Oui, mais c'est pas que ça. Il y a le fond, la forme, il y a tout, Nico, ce soir.
Nico, tu sais que je disais à Kevin avant le match. Enfin non, le match avait déjà commencé depuis quelques minutes. Je lui disais honnêtement, je pense que dans le monde du foot, c'est chaque pays a un peu des particularités. Les Portugais, ils chouinent beaucoup au foot. Et Kevin m'a avoué que c'était vrai. Ils ont un petit côté
chouiner. Non, c'est pas du chouinage, c'est le fado dont on parlait hier.
Toi, dis rien, c'est parce que toi, c'est pareil.
Non, c'est du fatalisme.
Mais c'est pas du chouinage. Non, mais moi, j'adore les particularismes culturels.
C'est plus de la souffrance que du chouinage.
C'est pour ça que j'aime en parler.
C'est pas du caprice, tu vois.
Et vous voir ce soir, parce que quand je suis arrivé, je vous ai vu heureux et avec le sourire. Moi, ça me fait plaisir. J'aime quand les jeux sont heureux. J'ai reçu des messages d'amis marocains qui étaient très heureux aussi. C'est bien, j'aime le football. Procure ces joies-là, c'est chouette.
Ce qui est complètement dingue.
J'ai eu aussi un message d'un ami espagnol qui n'était pas content.
On t'embrasse, Fredo.
Ce qui est complètement dingue, Nico, c'est
Fred qui sera avec nous, évidemment, tout à l'heure, messieurs. Vas-y, Kevin.
Ah non, c'est pas Fred.
Nico, pour te dire la vérité, le football, c'est quand même incroyable parce que avant le match, Daniel me dit j'espère qu'avec cette compo, ça va jouer et tout ça. Je lui dis mais quand même, dans la compo, il met pas Cristiano, après, il met Otavio, Gonzalo Ramos, il est tout jeune.
T'as pas vu Cancelo, t'as pas aimé?
Il met pas Cancelo.
Moi, j'étais enthousiaste. Kevin, il m'a douché direct.
Franchement, c'est quand même une compo
Kevin,
très osée.
J'ai gardé un texto que Kevin m'a envoyé pendant le match. Ouais. J'espère le sortir à la fin.
Écoute,
je dis rien, c'est du teasing. Ce match est un camouflet pour Kevin Diaz, qui avant la rencontre, au moment du mais qu'est-ce qu'il fait Fernando Santos? On ne gagnera jamais la Coupe du Monde avec un tel effectif. Tu l'as dit? Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? On va le ressortir, ça. On va le ressortir.
Tu peux le ressortir.
Non. Le seul truc que j'ai accordé à Kevin, et là-dessus c'est vrai, c'est Cancelo. Parce que tu te dis arrière gauche, arrière droit, même s'il joue souvent à gauche avec City,
en tout cas c'est un bloc bas.
Le côté que tu veux, Cancelo, tu trouves ça étonnant qu'il soit pas dans la compo. Bon, ça c'est le seul truc, ça je te l'ai accordé et tout. Le reste, que tu veuilles Vitinha titulaire ou Otavio et tout, j'ai pas l'impression que l'écart il soit si dingue. Et puis surtout, la vraie info,
c'est Ronaldo.
C'est tombé. Mon fils, il a couru dans la maison, il dit papa, Ronaldo sur le banc. Je lui ai dit, oui, mais on s'en doutait. Il fait, ouais, mais bon, quand même.
Moi, honnêtement, je pensais qu'il allait être titulaire.
Donc, il fait démarrer Ramos. Il y a une attaque neuve, du coup, le fait qu'il n'y ait pas Ronaldo avec la sélection du Portugal. Je ne sais pas si on mesure l'information.
Il y a eu quelques matchs l'année dernière qui sont bien passés, d'ailleurs.
Ça n'avait pas la même signification, là, quand même.
Bien sûr. Non, la différence...
Donc, la signification, elle est énorme. Et ce Ramos, Moi, je me dis, putain, la pression qu'il va prendre le gars à remplacer Ronaldo. Qu'est-ce qu'il a fait de la pression?
Il y a Ramos et Santos, parce que le choix, c'est quand même Santos. Oui, après tout ce qui s'est passé, cette fameuse sortie contre la Corée du Sud où Ronaldo dit une chose et finalement, il se rend compte que, il se fait démentir par Fernando Santos en conférence de presse, qui dit, j'ai vu les images, j'ai pas aimé. Juste quand même, parce qu'il y a une grosse différence entre les matchs où Cristiano Ronaldo n'était pas là. Je pense notamment à la Ligue des Nations où le Portugal avait bien joué et les matchs où Cristiano Ronaldo est sur le banc. Pour moi, il y a une nuance qui est très importante. C'est-à-dire que ce soir, c'est pas Cristiano Ronaldo, il est pas là. C'est Cristiano Ronaldo, il démarre sur le banc.
Absolument.
Le symbolisme. Je vous donne une stat. Vous savez que Ronaldo, il est recordman de sélection. En 142 matchs qu'il a joué avec le Portugal, match à enjeu, on enlève la cinquantaine de matchs amicaux, il y avait que 4 fois où il avait démarré sur le banc.
Mais j'imagine pour des raisons objectives ou des raisons.
Alors, la dernière fois, c'était au mois de juin face à l'Espagne, match de
génération. T'es moins fort, tu joues plus.
Alors, en juin.
Le sens de ce soir, c'est ça.
Non, ce soir, il y avait et le côté performance et le côté finalement sanction également. Mais juste quand même pour revenir à la compo de départ, il y a le choix Cristiano Ronaldo. Mais moi, il y a un truc, et on en avait parlé déjà un petit peu hier. Fernando Santos, on lui est beaucoup tombé dessus ces derniers temps, et à mon sens, à juste titre, pour tout ce qu'il faisait. Moi, depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai aucun reproche à faire à Santos. Il fait totalement l'inverse de ce qu'il a fait jusque-là. Il n'est pas résultatiste, il n'est pas conservateur. Il n'y avait aucun numéro 6 dans l'11 de départ aujourd'hui. Il avait fait les deux premiers matchs avec Ruben Neves, c'était le seul numéro 6 qu'il y avait. Il a eu les Corones, j'aime pas cette expression, mais il a eu le courage de mettre Ramos, João Félix en attaque, Bernardo à un poste où il était électron libre. Il était partout, Bernardo, encore aujourd'hui.
Moi, j'ai vu le Bernardo de City que je ne vois pas toujours au Portugal.
On a eu le débat il y a deux matchs.
Il avait été bon aussi contre.
Et moi, je pense. Et Bruno aussi, il est bon ce soir.
Mais Bruno, depuis le début de la Coupe du Monde, pour moi, c'est une révélation.
Il joue avec Félix Parlozon,
parce que c'est là où de Ronaldo. Ouais. Il a beaucoup souffert. Ce soir, j'ai vu une équipe totalement libérée. Je ne sais pas où elle va aller. Pour chaque pays qui est encore présent, on peut imaginer une histoire belle. Pour Messi et l'Argentine, on imagine. Pour Neymar et le Brésil, on imagine. Chaque pays peut avoir. Pour l'Angleterre, parce que ça fait depuis 66, chaque pays peut construire sa belle histoire. L'histoire du Portugal. Ce serait de gagner la Coupe du Monde ou d'aller en finale et que Ronaldo participe à la fête d'une façon ou d'une autre, un hommage, les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes. Tout le monde peut imaginer la belle histoire pour son pays. Pour Ronaldo, c'est comme ça que je la vois. C'est un Portugal qui va en finale, qui mène, qui le fait rentrer et c'est lui qui va soulever la Coupe. Et je pense que le pays est en extase.
Bien sûr. Non, mais c'est pour revenir à ce que je disais juste avant le match, moi là.
Mais il doit plus jouer, c'était ma conclusion. Ouais. Mais il doit plus être titulaire.
Non, mais moi, de toute façon, c'est très, très fort ce qu'a fait Fernando Santos. Et je le disais aussi avant le match. Ça, Nico, tu l'as pas noté. Il avait déjà eu beaucoup de courage, comme on dit, en sortant Rui Patricio, qui est quand même une légende du football portugais, et pour mettre Diogo Costa dans les barrages, qui était ultra important. Là, dans un huitième de finale, il a le courage, encore une fois, encore plus grand, de sortir la légende Cristiano Ronaldo, la légende des légendes, et, pour mettre un Gonzalo Ramos, qui sort de nulle part, même s'il est excellent avec le Benfica depuis le début de saison. Mais comme disait Daniel, un jeune joueur, on sait pas du tout ce que ça va donner, etc. Derrière, il fait aussi des gros choix. Personne voulait voir au Portugal Guerreiro depuis le début. Il met Cancelo sur le banc, qui était titulaire indiscutable à droite ou à gauche.
Bah oui.
Au milieu de terrain, il met Otavio. Moi, j'avoue que même s'il est très correct aujourd'hui, c'est vraiment pas mon joueur préféré, mais il est aussi plutôt bon. Et l'autre, c'est João Félix. Alors João Félix, moi, je l'ai commenté tous ses premiers matchs sur RMC Sport de sa carrière. Les 20 premiers, je les ai commentés. Il avait été excellent. Je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là, alors que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au foot quasiment. En tout cas, enchaîner des matchs.
Et tu crois pas que tous ces mecs-là sont libérés par la
France? Mais bien sûr.
De
mais ça, on l'avait déjà vu en Ligue des Nations. Le Portugal, beaucoup plus libéré, sans avoir cette cible toujours à dire, ouais, Ronaldo, alors, qu'est-ce qu'on fait?
Tu sais quoi? Moi, je sais pas si c'est le fait qu'il soit pas là, ou si c'est le fait qu'il se soit fait recadrer, encore une fois. C'est-à-dire que, Fernando Santos, jusqu'ici, il avait tendance à avoir toujours un discours des circonstances,
mais là,
à être très politiquement correct. Mais c'est pas qu'il peut plus, c'est que là, c'est terminé. Là, ouais. hier, la posture publique qu'a eu Fernando Santos vis-à-vis de lui, il a expliqué, maintenant, c'est moi le boss. Pardon, cri-cri, mais non seulement quand t'es sorti, j'ai pas aimé ton attitude, et en plus, derrière, t'as pas dit la vérité. Donc, je vais te démontrer.
Finalement, ça l'a pas servi, Nico, Fernando Santos, ce dernier écart de Cristiano Ronaldo.
Je sais pas. Après, c'est facile maintenant de dire ça, mais, et puis en plus, enfin. Très simple. Alors, je vais même te dire, pour en revenir à la compo de départ, ce matin, moi, j'ai épluché tous les quotidiens sportifs, les trois sportifs, plus la presse généraliste, il n'y a pas un journaliste qui ne mettait pas Cristiano Ronaldo titulaire. C'est-à-dire que tout le monde a vu hier la sortie de Santos en conférence de presse comme un avertissement, mais personne n'imaginait Cristiano sur le banc.
Attends, ça, j'avais pas compris que t'allais dire ça. Je pensais que tu disais.
Exactement.
Tout le monde le voyait titulaire.
Non, mais il n'y a pas. Mais moi, le premier. Hein.
Tu veux dire que les gens au final étaient convaincu que c'était
Daniel,
impossible.
Moi, hier, j'ai suivi la conférence de presse en direct.
C'est fou, ça.
Hier, j'ai suivi la conférence de presse en direct. Déjà, tout le monde était abasourdi. C'est-à-dire que tu sentais même l'ambiance en conférence de presse
fou,
en disant, mais attends, Santos, il est en train de mettre un tir à Ronaldo, là. Ouais. Il est en train de dire, non, j'ai pas aimé. Et là, on s'est tous dit, OK, tu lui as mis un avertissement. Maintenant, tu vas le piquer. Demain, tu le mettras titulaire. Mais d'ailleurs, mais pour des raisons qu'on a évoquées hier, qui sont objectives. Mais moi, je dis comme Kevin. Moi, je vois Gonçalo Ramos. Et comme toi, je me dis, mais attends, la pression, le gamin, il a 21 ans.
Ah ouais, c'est
il débute avec Léa. Il a pas, enfin, il a pas une vraie expérience. João Félix, il enchaîne pas les matchs en ce moment. Même s'il est, d'ailleurs, Simeone l'a dit, hein, avant la Coupe du Monde. Il a dit, vous savez quoi, une Coupe du Monde? C'est la compétition parfaite pour João Félix. Mini championnat. Il va tout donner pendant un certain temps. Lui, il peut pas être bon, dans un marathon. Mais au sprint ou sur le 1000 mètres, il va être
au taquet. Il est incroyable. Incroyable.
Mais personne n'imaginait Ronaldo
remplaçant. Le fait que tu dis ça, je suis très, très pressé de savoir ce que, dès ce soir, vont dire les éditorialistes au Portugal de ça, finalement. Parce que je mesurais pas. Évidemment que je mesurais que c'était un événement incroyable, mais pas au point de ce que tu viens de dire. Malgré l'événement, malgré ce qui s'était passé, tout le monde le voyait sur le terrain, et même vous.
Mais parce qu'on passe en connaissance.
Tout le monde le voyait, mais Nico rappelle ce sondage, là, proposé par Abol.
Attention, c'est pas un sondage.
70%. C'est pas un sondage?
Non, d'accord. Si, c'est un sondage,
avec un échantillon représentatif de la population portugaise, effectivement. 70% disaient vouloir Ronaldo sur le banc pour ce huitième de finale.
Parce que moi aussi, j'ai fait un sondage sur Twitter, et le résultat n'était pas le même, mais ce n'est pas un sondage dans ce cas-là. C'était sur le site internet. Ceux qui ont voté à 70% ont dit Ronaldo doit être sur le banc, mais ça ne veut pas forcément dire que
sens.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, avant la Coupe du Monde, et là, pour le coup, c'était un sondage, le Courrier d'Amanien, qui est un quotidien un peu sensationnaliste, enfin très sensationnaliste, avait pour le coup commandé là un vrai sondage, et avant la Coupe du Monde, il y avait 40% des Portugais qui voulaient Cristiano sur le banc. C'est énorme,
40%.
C'est
beaucoup.
C'est énorme, la Coupe du Monde.
Ouais, mais d'un autre côté, il y avait peut-être 70% des Portugais qui voulaient plus de Fernando Santos comme sélectionneur.
Mais bien sûr, carrément. C'est vrai.
Mais franchement, essaye de regarder.
Alors, tu vas prolonger vraiment les premiers comme Deschamps.
Bah là, j'ai les titres déjà, si tu veux, des canards. Vous les voulez ou pas?
Oui, bien sûr.
D'abord, on accueille Ludovic. Dans un instant, tu les donnes. Supporter portugais. Salut Ludovic.
Hola, boa noite, amigos!
C'est quoi Ludovic en portugais? C'est un vrai prénom portugais,
non,
Ludovic?
Non, Ludovic, mais c'est pas, non.
Il y a beaucoup de Ludovic
franco-portugais. Il y a bien Cédric, international portugais,
tu sais. Ah,
Cédric, c'est pas pareil.
Mais c'est parce qu'il est né en Allemagne, lui. Non, c'est vrai.
Oui, t'as raison, c'est ça. Bonsoir Ludovic, alors raconte-nous un peu comment t'as vécu ce match.
Bonsoir.
Et quels sont. Parlons des joueurs qui ont joué, hein, même si Ronaldo est entré en fin de rencontre. Qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a plu plus globalement dans cette sélection ce soir?
J'ai presque pas envie de parler des joueurs. J'ai presque pas envie de parler de tout ça. Je voudrais. Est-ce que Daniel, tu me remets le socios de Benfica que t'avais eu pour le Benfica PSG? On avait longuement discuté. J'étais stressé vis-à-vis de Benfica et je t'avais dit l'irrationalité du supporter. Et hier, je sais pas si tu me remets. Et hier, je crois que Nico vous parlait de un peu la mélancolie portugaise. Et ben moi en fait c'est pareil. Et là, ce soir, j'ai juste envie de retenir, c'est même pas les buts, c'est juste le plaisir que j'ai eu à voir ce match. La joie que cette équipe m'a procuré. Vraiment, en une mi-temps, surtout la première, on a eu plus d'occasions, plus de jeux quasiment que les trois premiers matchs. On voit des sourires. Franchement, les gars ont été costauds. Le petit jeune, là, Made in Benfica, Gonçalo Ramos, grosse pression, Cristiano sur le banc. Il t'a mis un triplé, c'est presque inimaginable. 6 buts, 4 joueurs différents qui ont marqué. Et franchement, le patron, Nico, il le sait. Même à l'Euro 2016, le grand patron, c'est Pep. Bien sûr, Ronaldo, c'est le capitaine. Ronaldo, c'est la lumière, c'est le flambeau. Mais celui qui tient le flambeau, c'est qui? Le vrai patron, c'est Pep.
Quelle légende.
Et puis il devient le joueur le plus vieux à marquer. Vraiment, je pense que tous les supporters portugais doivent être comme moi. On a tellement... Comment dire, je vais faire un parallèle. Je pense que si tu es supporter de n'importe quelle nation africaine, tu vois, à part faire une Michel Blanc, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut passer. Tu rêves de quoi? D'un quart, d'une demi. Mais nous, portugais... Depuis plusieurs années, avec la compétence qu'on a, le niveau qu'on a, on espère quand même autre chose, aller un peu plus loin.
Oui, que ce soit l'année du titre avec une telle génération, que ce soit l'année du sacre mondial. Oui, je comprends, c'est tout à fait envisageable en plus.
On a, quand tu vois ce qu'on a de base, et la chute est toujours plus forte. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette mélancolie. Moi, je suis toujours un peu stressé. L'adversaire, je le fais toujours un petit peu plus gros et tout. C'est ce qu'expliquait Nicolas hier, notamment. Et là, vraiment, c'est un soulagement. Bon, j'espère passer contre le Maroc. J'espère aller loin. Mais au moins, on retiendra ce match. Et même en dehors du Portugal, je pense que ça va beaucoup
parler. 600 en 8e, ouais, contre la Suisse.
Un vrai match, tu vois. Hier, franchement, on n'a pas un grand bol de plaisir avec le Brésil. Ce soir, le Portugal a répondu. Je suis vraiment soulagé, content.
Non, mais surtout, Ludovic, que le Portugal, c'est surprenant quand même, parce que, ok, ça reste la Suisse, mais la Suisse, c'est une équipe difficile à jouer quand même.
La Suisse ne prend jamais une raclée pareille, hein, ouais. Attention. Hein.
L'équipe de France peut nous en parler. L'année dernière, c'était compliqué. Je termine rapidement, Ludovic, mais c'est vrai que moi, je pensais pas du tout qu'il y aurait un tel écart. Par contre, c'est vrai que je préférais prendre les Suisses que la Serbie, parce que la Serbie avait vraiment embêté le Portugal il y a quelques mois et les avait envoyés en bas. Maintenant, moi je suis d'accord avec toi pour insister sur Pep qui a été vraiment excellent, mais il va chercher le ballon là. Je sais pas combien il a été le chercher, un timing magnifique défensivement depuis qu'il a pris
la place de Danilo. Quelle est sa popularité au Portugal? Parce que vous voyez, quand vous en parlez comme d'un taulier,
c'est un phénomène.
Pep pour moi, Pep pour moi, c'est quand même c'est un joueur qui est quasiment fini et tout. Donc parlez-moi de lui.
Il y a deux choses
dans son importance.
Il est qualifié hein, quand même.
Oui, mais je sais bien.
Mais sa popularité, il y a deux choses qui, enfin, le dessert.
Un vrai portiste.
C'est que il est très étiqueté FC Porto, mais vraiment beaucoup, et notamment dans les classicos, les derbies, enfin les classicos pour le coup, il a souvent eu des postures un peu.
Donc les mecs de Benfica peuvent pas le blairer, quoi.
Voilà, en gros, c'est ça. Donc c'est-à-dire la moitié du pays, ou plus de la moitié du pays. Ouais. Après, je schématise, hein, tout le monde, le clubisme va quand même un peu mieux ces derniers temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il est naturalisé, c'est-à-dire c'est un Brésilien à la base. Moi je me souviens d'un match, je crois que c'était contre l'Allemagne au Brésil, il me semble, José Mourinho qui l'avait eu comme entraîneur au Real, où ça s'était pas bien passé, parce qu'à l'époque Pep faisait partie des joueurs qui s'étaient rangés derrière Casillas, avait écrit un édito dans la presse au Portugal où il avait écrit noir sur blanc: Pep a plus d'obligations que les autres d'être exemplaire parce que ce n'est pas un vrai Portugais. Il a écrit ça mot pour mot. Donc si tu veux, et alors ce qui est terrible, c'est que Pep, c'est vraiment un mec qui se sent profondément portugais. C'est pas le mec qui a été naturalisé à la va-vite. Ça fait des années, d'ailleurs les processus de naturalisation au Portugal des joueurs se font en toute légalité. Il faut que tu aies 5 ans de résidence
dans le pays. Ça c'est sûr.
Non, mais même Liedson, il a fait ses 5 ans de résidence, même plus, et après, il a eu son passeport. Après, lui, il avait 30 et quelques années quand il a eu le passeport, mais il n'y a pas de passe-droit, si tu veux. C'est pas parce que t'es footballeur que t'es portugais, tu vois.
Nicolas, et je sais que Daniel l'aime beaucoup. Moi, je disais à mon père tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de partager ce match avec mon papa. Et João Félix, il n'avait pas des ailes aujourd'hui.
C'était élégant, c'était aérien, c'était magnifique, rien à voir avec celui qu'on voit à Madrid.
Mais qui s'en aille ou qui change d'entraîneur là-bas.
Eh oui, mais ça dépend pas que de lui, malheureusement.
Ouais, qu'il change de club.
Il avait le sourire. Et je voudrais une mention spéciale à mon joueur, après Rui Costa, mais mon joueur préféré, et qui est le sous-côté, mais je m'en fous. Et un jour, vous verrez, il sera président de Benfica. C'est au Bernardo Silva. Vraiment, j'ai un grand mot d'amour pour ce joueur qui est incroyable, qui travaille. Qui bouche les trous,
c'est l'intelligence incarnée.
De son corps, de sa sueur et tout. Vraiment, Bernardo Silva, si je pouvais l'avoir devant moi, je prendrais dans mes bras.
J'ai eu peur. C'est pas encore la libre antenne. Hein,
mais dis-moi, Deco, il avait pas souffert de la même chose.
Alors tu sais pourquoi Deco? Parce que Deco, en plus, il arrive au moment où Rui Costa est sur la fin, et Deco prend la place de Rui Costa. Oui. Et à l'époque,
c'était une légende.
Et à l'époque, donc on est au début des années 2000, il se passe un épisode que d'ailleurs les intéressés ont toujours démenti, mais ça fait partie de la légende, et en off, beaucoup savent que c'est très certainement vrai. C'est qu'il y a un petit pool de joueurs d'historique du Portugal, où il y avait Figo, il y avait Rui Costa notamment, et d'autres joueurs historiques du Portugal qui ont créé un groupe.
Figo,
il a fait
un peu la misère, Deco. Ouais,
et justement, parce qu'il considérait que c'était pas entre guillemets un vrai Portugais, Deco. Mmh. Mais Deco, en fait, avait été l'un des premiers naturalisés pour la première fois depuis des années. Et il a un peu ouvert la porte. C'était Scolari le sélectionneur. Et ça, pour le coup, ça pareil, ça lui avait un peu desservi le fait que ce soit Scolari, etc. Et juste une chose, que Ludo en parlait aussi tout à l'heure, je vous donne par exemple le titre du site numéro 1 de foot au Portugal, qui est MyFootball. Le titre, c'est pourquoi? Parce que le Portugal, Nico Jamin le disait tout à l'heure, depuis 2006, ils n'avaient pas atteint les demi-finales de la Coupe du Monde.
Les demi-finales, c'est que le quart là.
Oui, mais enfin, alors je corrige, pardon. Ils n'allaient pas au-delà des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc là, ils vont au-delà des huitièmes. Et surtout une chose, et on en revient pour boucler la boucle. On parlait de Santos au tout début. Santos, donc hyper décrié et machin. C'est le premier entraîneur portugais qui va au-delà des huitièmes de finale d'une Coupe du Monde, qui a atteint un quart de finale. Jamais un sélectionneur portugais, toutes nations confondues, les Carlos Queiroz, même pas dans les années 60, c'était un Brésilien à l'époque en 66, jamais un sélectionneur, un entraîneur portugais n'avait atteint un quart de finale de Coupe du Monde. Et ça au Portugal.
C'est qui en 2006?
C'est Scolari.
Ah oui, c'est Scolari.
Mais il y a quand même.
Allez, Kevin, pour conclure.
Il y a quand même un mot à dire pour conclure sur Fernando Santos, hein, parce que.
Pourrais-je dire un dernier mot, s'il vous plaît?
Oui, Ludovic, bien sûr. Vas-y, Kevin.
Je pense que la chose la plus difficile pour un entraîneur, ça reste de se réinventer, ça reste d'aller contre ses principes. Et il a réussi à le faire. Je le disais en barrage. Il s'est réinventé. Il a enlevé le gardien. Là, il enlève Ronaldo. Et depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a fait quasiment que des bons choix. Son équipe, elle joue mieux. C'est pas encore le Brésil, mais ça arrive. Je ne sais pas si les Portugais vont danser à la fin, mais en tout cas, Fernando Santos a réussi sa petite révolution.
Ludovic, vas-y, le mot de la fin pour toi.
Alors, deux mots très rapides. Le premier, pour Daniel, je t'avais envoyé dans un mail le documentaire sur le Benfica Campus, le centre de formation de Benfica. Quand on voit, je sais pas si tu te rappelles, quand on voit Enzo Fernandez avec l'Argentine, Gonçalo Ramos aujourd'hui, bon.
Benfica, mais il est pas formé au Benfica, Enzo Fernandez.
Non, mais où est-ce qu'il a quand même explosé, Robert?
Il est arrivé.
Non, il a explosé.
Il vient d'arriver. Il explose à River, Ludo.
Mais bon, c'est un bon centre de formation quand même. Vas-y.
Et dernière chose. Je sais pas quand je repasserai. C'est un petit mot pour l'after foot, pour Daniel, pour Gilbert, pour ce que vous faites au quotidien. On vous suit. Et un mot spécial pour Nicolas. La team Blogolo est là. Tu le sais. Et surtout, Daniel. Merci, parce que tu as beaucoup été décrié, mais tu es peut-être une des personnes en France qui a toujours valorisé et respecté le football portugais et qui lui a le plus donné sa parole, avec Nicolas Villas notamment, qui traite le football portugais en dehors du clubisme. Et je suis pas là à faire de la lèche parce que vous en avez pas besoin.
J'ai hâte que tu en fasses alors, voir ce que ça donne. Hein,
mais c'est vraiment, les gars, ça fait plaisir qu'au fil des années, moi j'ai beaucoup évolué et appris aussi avec vous, et je suis la revue et notamment, mais franchement, grâce à RMC, grâce à Gilbert, grâce à Daniel, et ben moi j'ai lu ma revue de l'After et il y avait un papier de Nicolas Villas sur Académica de Coimbra, qui est un club mythique du Portugal.
Bah, tu regarderas la libre antenne, j'aurai la casquette ce soir.
Et ça c'est possible en France, c'est grâce à vous. Donc franchement merci.
Merci Ludovic.
On écoutera le podcast Joga. On va en faire un sympa.
On essaye d'avancer effectivement.
Si tu veux me faire venir dedans, je t'ai déjà dit, je suis au taquet.
Ça marche, Ludo.
Alors rendez-vous est pris, Ludovic. Merci Ludovic.
Ludovic.
Salut Ludovic.
Et à la
bientôt.
Ah oui, Ginge.
Très bonne soirée à toi, Ludovic. Nico, merci. On te retrouve dans 1h40 à peu près pour la libre antenne.
Avec Thibaut Jean.
Je suis en train doucement de s'installer là sur RMC, libre antenne. Beaucoup de témoignages magnifiques.
Je ferai ma première dans la libre antenne pour traiter la victoire du Portugal.
On est en hélico-tub apparemment, mais c'est une autre histoire.
Ah ça. Oui, d'accord, c'est ça le ton, c'est ça effectivement.
Ouais, tu verras.
Mais à minuit, c'est encore mieux. Allez, Nico, à tout à l'heure dans la libre antenne. Dans un instant, on parle de l'adversaire du Portugal en quart de finale de ce mondial, le Maroc, bien sûr. On sera avec un confrère marocain en studio ici à Doha. Jusqu'où le Maroc peut-il aller? Quelle chance face au Portugal? On va revenir aussi sur sa victoire, sa qualification au tir au but face à l'Espagne. On parlera de Luis Enrique, également soutenu par tous ses joueurs après son élimination prématurée dans cette Coupe du Monde. Reste avec nous, c'est l'After. Et je vous rappelle que pendant le mondial, grâce à RMC et Foot Corner, vous allez pouvoir remporter des maillots des équipes nationales. Aujourd'hui, vous allez gagner le maillot de la sélection portugaise. Pour le remporter, il faut envoyer foot au 7-32-16, foot au 7-32-16. La suite de l'After, intégrale Coupe du Monde sur RMC dans un instant, 22h23 à Paris, minuit 23 à Doha au Qatar. À tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde,
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, vous écoutez RMC, After Foot Intégral Coupe du Monde, 22h28 à Paris, minuit 28 à Doha au Qatar, en direct du studio RMC. Dans un instant, on parlera de l'équipe de France, bien sûr, à 3 jours désormais de son duel en quart de finale face à l'Angleterre. Ce sera samedi à 20h sur RMC, bien sûr, avec un dispositif exceptionnel en direct du stade d'Albaït pour ce match entre Français et Anglais. Juste avant, 4 heures plus tôt, il y aura donc un Portugal-Maroc. Car oui, le Maroc s'est qualifié aux dépens de l'Espagne, 0-0 à l'issue du temps réglementaire, de la prolongation. Tir au but catastrophique pour les Espagnols. On en parle tout de suite sur RMC, notamment avec Fred Hamel. Bonsoir Fredo.
Hola chicos.
Et j'accueille aussi, Fredo. Il était là avec nous hier soir dans l'after, Nasreddine Nasri, journaliste marocain. Salut Nasreddine.
Ben, bonjour à tous les auditeurs, je suis très très content de venir.
T'es encore un peu essoufflé, t'as vu?
Ouais, ben, je suis encore avec la tenue du Maroc, avec le numéro 8... Azedine Ounahi.
Tu as vécu un grand moment. D'ailleurs, Ounahi, on en parlera aussi parce que Lucien Riquet a eu un hommage incroyable en conférence de presse au milieu de terrain offensif du SCO d'Angers.
Il ne le connaissait pas.
Il ne le connaissait pas, mais bon, il a reconnu. Il a dit mais qui est ce joueur? Qui est ce numéro 8? Il joue où exactement? Ounahi. Ouais. Voilà, hommage pour Angers. Là, je pense qu'on est content Angers. Il prend plus de 10 millions.
Angers, ouais,
c'est une sortie comme ça.
Ah ouais, non, il va en Liga direct.
Là, c'est plus 10 pour Ounahi.
C'est la façon, là, il apprend.
Plus Bouffal qui fait un gros match également. Tout va bien pour le SCO. C'est une bonne nouvelle aussi. Alors, Fred, raconte-moi un peu ce qu'on dit en Espagne ce soir. Est-ce qu'on tombe sur Luis Enrique ou pas vraiment?
Ah oui, ah bah bien sûr. Bah bien sûr, parce qu'il y a plein de choses. Bah déjà contre le Japon, on avait vu que beaucoup de gens s'inquiétaient. Enfin moi, j'ai jamais été surpris, hein, ça vous le savez. Mais les Espagnols se disaient qu'il y avait des choses qui étaient pas normales contre le Japon, que Luis Enrique n'avait pas de plan B. Et là, en fait, il a eu des choix très étonnants dans son 11 de départ. Le fait qu'il n'y ait pas Morata, par exemple, qui a été quand même le meilleur buteur de cette sélection. Le fait que en latéral droit, il a mis Marcos Llorente. Rappelez-vous, quand un certain Diego Pablo Simeone faisait ça avec l'Atlético, tout le monde lui tombait dessus, à juste titre. Ça a été un 11 très étrange. Et puis Luis Enrique n'a à aucun moment eu les ressources tactiques pour essayer de bousculer cette équipe marocaine. En fait, ce qui se passe, l'Espagne, quand tout va bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, eh ben, ça ne marche plus et il n'y a pas les ressources de talent, ça on le sait, mais il n'y a pas les ressources tactiques du côté de Luis Enrique. Il n'y a pas un changement qui a pu, à un moment, réussir quelque chose. Si, il a fait un changement. Il a fait rentrer Sarabia pour tirer le tir au but alors qu'il a joué quelques secondes et il l'a raté.
Bon, ça, il a assumé, Luis Enrique, Fred, en conférence de presse.
Oui, bien sûr, mais.
J'assume la responsabilité. C'est moi qui choisis les trois premiers tireurs de la séance, Sarabia, Soler et Busquets.
Bien sûr.
Et ils sont
prêts. Après, il faut quand même dire que pour sortir les Espagnols, c'est le seul moyen. C'est de traîner jusqu'au péno.
Oh non, ouais, mais enfin, excuse-moi, mais t'as vu comment ils ont joué. Enfin, excuse-moi. De toute façon, moi, j'étais le premier à dire depuis le début.
2018, tu te fais sortir au péno. À l'Euro, tu te fais sortir au péno. Ce soir, tu te fais sortir au péno. Il y a quand même une réalité qui est. Il y a une limite, c'est que effectivement offensivement, un peu à l'image des Allemands, ils ont peut-être pas un œuf pour créer des brèches.
Mais surtout qu'il a pas, il les a pas emmenés les deux meilleurs.
En plus, il en avait un, il l'a pas mis.
Non, ça,
j'ai vu sur le premier match un très bon Azpilicueta que j'ai pas revu, c'est dommage. Je pense que j'aurais mis également parce qu'il a des qualités de percussion qui me semblent intéressantes. Moi, j'aime bien Llorente, mais bon, ce soir effectivement, c'était pas un bon choix.
Son poste, c'est pas latéral. Hein.
Néanmoins, il faut quand même dire que quand il tout le monde aujourd'hui semble avoir la recette maintenant. Les Russes avaient fait ça.
C'est exactement le même match. Hein. Plus de 1000 passes et
tu mets un autobus, t'attends les pénaux, tu pries. Bon, bah voilà, c'est connu. Tout le monde veut faire ça contre l'Espagne. Très bien. Bon, quand ça passe, ça passe. C'est visible. Et encore une fois, les trois dernières compétitions internationales, ça s'est terminé de cette façon. Moi, pour le football, c'est effectivement toujours un regret parce que j'aime bien cette équipe, mais là, elle est prise un peu en défaut et comme en plus il y a des choix tactiques effectivement qui sont pas bons.
Et des choix de personne aussi parce qu'il y avait pas de leader sur le terrain.
Mais après leur tomber dessus ou je suis pas vraiment d'accord parce que. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ton adversaire, la seule issue qu'il a, c'est de te traîner au péno.
Bon, okay, je suis pas d'accord. Bien. Je suis pas d'accord. Le Maroc a fait plus de tirs cadrés que l'Espagne.
Donc, non, mais Fred, là, vraiment, alors vraiment, là, c'est d'une ignorance crasse absolue, ce que tu veux
non,
dire.
Non, mais le Maroc a fait plus de tirs cadrés.
Faut pas me gonfler avec ce genre de choses.
Bah, excuse-moi, mais quand même.
C'est une stupidité sans nom de dire ça.
Bah, je suis désolé. Non, je suis désolé parce que toi, tu veux pas reconnaître qu'après le 7-0, tu veux pas reconnaître qu'après le 7-0. Daniel, tu voulais pas reconnaître qu'après le 7-0, moi, je posais des limites
Fred,
en disant, moi, écoute, je ne crois pas cette équipe espagnole.
Ne dis pas n'importe quoi.
Attends, Daniel, laisse parler Fred.
Il y a un truc qui n'a pas le niveau. Les trois dernières compétitions, si tu vas pas au final, tu les sors pas.
C'est une équipe moyenne.
C'est vrai ou c'est pas vrai, ça?
C'est une équipe
moyenne. Tu les élimines pas dans le jeu. Dans le jeu, personne les bat.
Mais.
Oui ou non?
Oui, mais sauf que oui, mais on a vu ça
non,
la même
oui
chose.
Ou non
le match contre la Russie,
Fred.
On l'a vu. Il y a les 1000 passes, on les a vues il y a 4 ans.
Fred,
c'est exactement
oui ou
le
non
même match contre la Russie.
Non, mais est-ce que tu peux répondre à cette question?
Ben, le Maroc,
si tu les traites pas au péno, tu les bats pas.
Mais l'important ce soir, c'est que les Espagnols ont fait un match de merde et qu'ils sont chez eux.
D'accord, Fred.
Et excuse-moi, je peux terminer ma phrase après le 7-0.
Termine,
vous étiez tous à dire formidable Espagne, quasiment candidate pour être en finale.
Mais elle l'est. Elle l'est à tous les coups. Elle l'est. C'est pas une erreur de le dire. Elle l'est contre l'Allemagne. Elle fait un très grand match.
Vas-y, Fred.
Et l'Allemagne a été également forte ce jour-là.
Daniel, s'il te plaît.
Tu analyses les résultats. Stade, toi, par
s'il
football,
te plaît, Daniel, vas-y, Fred.
Je termine simplement. Après le 7-0, tout le monde s'est été fou de joie. Moi, je suis un peu le spécialiste du foot espagnol. Je connais le niveau de ces joueurs. Ces joueurs-là ce sont des joueurs moyens. C'est tout. Et tu ne peux pas reproduire avec des joueurs moyens ce qui a été et qui a fonctionné avec des joueurs extraordinaires.
Avec une équipe moyenne, l'Italie a gagné l'Euro et a traîné l'Espagne au péno en étant dominée pendant 45 plus 30 minutes.
Daniel,
je parle football un peu.
Je parle
Daniel,
football,
Kevin, attends, Kevin, d'abord.
Et je vais te dire, Nico, très si bien, tu es la seule personne en Espagne à défendre Luis Enrique.
Mais je ne le défends pas. Je ne le défends pas. J'ai dit qu'il y a des mauvais choix. Au-delà de le défendre ou pas, il y a une analyse à faire.
Daniel.
Une analyse, je te dis que l'Espagne, avec des joueurs qui effectivement certains sont même pas tout le temps titulaires, c'est pas une équipe qui est aussi forte que par le passé que celle du trio de 2008, 2010, 2012. Évidemment, il n'empêche que cette équipe sur les trois dernières compètes, tu ne l'as pas copéno.
Écoute,
on partage le temps de parole. Kevin après Nasreddine.
Et puis en plus, je pense que je vais être entre vous deux, donc ce sera très bien. Je vais tempérer un peu ce que dit Fred et parce que oui, l'Espagne était éliminé aujourd'hui. Mais footballistiquement, la meilleure équipe, c'est de loin la Roja. Et ça, peu importe que le Maroc ait réussi à sortir deux fois sur deux frappes cadrées. Aujourd'hui, je vais te prendre comme exemple la dernière action du match. À la 120e minute, moi, le commentateur, tout le monde, on se dit, mais qu'ils envoient le ballon dans la surface, qu'ils arrêtent avec leur passe. Et finalement, ils font tic. Tic, tic, et ça départ, et ça finit sur un départ et une passe incroyable pour Pablo Sarabia qui est esselé justement par ce jeu de possession au deuxième poteau. Sarabia qui reprend de l'intérieur du droit, lui le gaucher, et qui va toucher le poteau de la lucarne opposée. Et si le ballon est au fond, l'Espagne a épuisé le Maroc et gagne logiquement. Laisse-moi finir, il me reste 30 secondes pour dire que on peut dire que Luis Enrique joue sans numéro 9, on peut dire tout ce qu'on veut, mais moi je trouve qu'au vu des jeunes joueurs qui sont sur la pelouse, au vu des certains anciens qui sont enfin, moi je trouve que ce que fait l'Espagne, c'est exceptionnel.
Mais bien sûr.
Ça reste exceptionnel parce qu'ils ont un style de jeu. Ils restent avec leurs idées. Ils vont au bout de leurs idées et perdre au pénalty, c'est pas un favori.
Ok, Kevin, on a compris. Non, Fred, excuse-moi, 30 secondes pour Nasreddine et je te rends la parole tout de suite.
Salut Daniel, salut Kevin et salut Fred. Daniel, est-ce que tu as une bonne mémoire? C'est Nas, est-ce que tu as une bonne mémoire? Tu te rappelles, on a parlé des pronos hier et je t'avais dit quoi? Je t'avais dit 0-0 péno. Tu t'en rappelles ou pas?
Oui, mais c'est pas une stratégie, ça. Ouais,
attends, mais j'ai pas fini.
Vas-y, déroule, toi.
L'Espagne a joué, c'était de la possession stérile. Et j'avais dit hier que le Maroc allait jouer avec ses armes. Effectivement, il y avait une possession, mais c'était stérile. Et avant la Coupe du Monde, moi, j'étais pas d'accord avec le choix des hommes de Luis Enrique. Tu ne peux pas te permettre de ne pas appeler un gars comme Sergio Ramos. Gérard Piqué, je suis d'accord, tu l'appelles pas, mais Sergio Ramos, un leader, tu dois le ramener.
Il va te faire gagner le match, là.
Mais non, mais il te fallait un leader. Daniel leader. Tu mets Rodrigo qui est milieu récupérateur. Mais laisse-moi finir. Avec City, tu le mets en défense centrale, c'est pas son poste.
Mais quel rapport?
Mais quel rapport?
Il
n'y
avait rien à récupérer, ils avaient le ballon tout le temps.
Mais ils en ont rien fait, ils en ont rien fait. Mais ils sont éliminés, ils en ont rien fait. C'était un processus terrible pour moi.
Oh là là, mais c'est dingue, vous comprenez rien au ballon, c'est incroyable.
Il
ne partage pas ton avis forcément.
Les gars, si vous voulez parler de stats, l'Espagne tire 6 fois au but, 2 fois cadré et 3 fois pour le Maroc. Donc l'Espagne a fait 2 fois plus de tirs que le Maroc. Donc me dites pas que l'Espagne, elle a rien fait de la possession. Ça s'est joué. Le Maroc, il y a une chose qui a été très bien et personne ne leur enlèvera, c'est qu'ils ont très bien défendu. Mais on ne peut pas me dire que l'Espagne ne mérite pas de gagner ce match. La possession stérile, ça n'existe pas. C'est pas la possession qui te fait gagner un match, on le voit tous les week-ends dans tous les championnats. Mais ne dire que l'Espagne a une possession stérile pour les accuser, entre guillemets.
Quand tu mets une ligne de 4, okay, une ligne de 6 à 20 mètres de tes buts, forcément tu vas avoir une possession qui ne va pas tout le temps être stérile. Sauf que si les Espagnols marquent dans le premier quart d'heure, je me demande bien quel va être le plan B après. Parce que le Maroc a des très beaux joueurs de foot. Vraiment, ils ont des très beaux joueurs de foot. Ils ont pris l'option de jouer comme ça. Je ne sais pas où ils vont pouvoir aller. Parce que, ok, effectivement, une équipe qui réalise quelque chose d'unique dans son histoire, bah, forcément, ça reste. Et tu es obligé de dire bravo parce que c'est unique dans l'histoire d'un football. Très bien. Et parce que c'est un 8e qui t'emmène en quart de finale. Mais si c'est, j'en sais rien moi, un match de poule qui au final t'emmène nulle part et t'as juste fait de la même façon un 0-0 contre l'Espagne, qu'est-ce que t'en as à cirer au final? Là, c'est un résultat qu'on met en avant. Le résultat, ok, il t'emmène en quart de finale. Mais où veux-tu que le Maroc aille en jouant de cette façon? Avec les joueurs qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont. Parce que vraiment, il y a des beaux joueurs dans cette équipe. Il y a des mecs qui ont été héroïques aujourd'hui. Il y a des gars, vraiment, je ne sais pas s'ils sont capables de faire.
Daniel, la manière, je pense qu'on s'en fout au Maroc ce soir, Daniel. On s'en fout de la manière, ils sont en quart de finale.
Nico, mais la question, c'est quart de finale, le Maroc, ils sont partout en Coupe du Monde comme l'Espagne.
Daniel, c'est une première fois.
Parce que c'est une première fois, c'est remarquable. Mais si tu analyses au-delà du résultat, si tu parles de football. Mais si tu parles de football, ça ne te mène nulle part de faire ça.
Daniel,
alors je peux
parce que c'est unique, on le remarque. Parce que c'est
ça
unique,
ne correspond pas à ta sensibilité.
Tu comprends la différence ou pas
également.
Non, mais la question,
oui,
c'est même pas la question de sensibilité.
Il n'y a pas de sensibilité. Quand tu apprends à jouer au foot quand tu as 10 ans, quand tu as 10 ans que tu apprends à jouer au foot quand tu as 5 ans. Le foot, on te dit, tiens, prends le ballon, joue avec le ballon. On t'apprend pas à jouer au foot sans le ballon.
Ça n'existe
pas de jouer au foot sans le ballon. Donc, que tu gagnes un match, parce que c'est ta stratégie de le faire sans le ballon, très bien, pour marquer l'histoire.
Si c'est ton moyen pour aller en quart de finale,
mais qu'est-ce que tu en fais après contre le Portugal? Tu penses qu'ils vont refaire ça? Et ça va remarcher à nouveau de faire ça?
Bien sûr que ça a marché. Ben, ça a marché contre la Belgique, Daniel.
Et donc ils vont le refaire et ça va marcher contre le Portugal.
Oui, bah ça a marché contre la Belgique, ça a marché contre l'Espagne et ça remarchera contre le Portugal.
Eh bah alors, allez, on fait une pause. Ils seront champions du monde en jouant comme ça. Voilà.
Bah pourquoi pas. Bah pourquoi
on fait une pause. On revient dans un instant.
Et toi, tu aimes ce football-là, toi?
Nasreddine, il est très content parce qu'il est en quart de finale.
Oui, parce que c'est son équipe. Mais donc on parle pas de football.
Le Portugal a été champion d'Europe comme ça, Daniel.
Ça n'a rien à voir. Il me parle de son émotion. Il me parle pas de football là.
Oui, bien sûr. Mais l'émotion prend le dessus sur la manière.
Nous, on est neutre. Nous, on est neutre.
Dans un instant, je rends la parole à Fred Armel. On va parler du Maroc aussi. Fred, tu restes avec nous. On va prolonger jusqu'à 23h. Vous nous appelez d'ailleurs au 32-16.
Qui va calmer tout le monde.
Fred, dans un instant, on fait une pause et je te rends la parole tout de suite. Sois patient. Dans l'after intégral Coupe du Monde avec Kevin Diaz, Daniel Riolo, Fred Armel et Nasreddine Nasri, journaliste marocain à nos côtés. Ici à Doha, 22h41 à Paris, minuit 41 à Doha. Tout de suite.
RMC. After Foot. Intégral Coupe du Monde. Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'Afterfoot intégral Coupe du Monde sur RMC, 22h46 à Paris, minuit 46 à Doha, avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, Fred Hermel et Nasreddine Nasri, journaliste marocain qui est à mes côtés en studio ici à Doha. On parle de l'élimination espagnole ou de la qualification, c'est selon du Maroc pour les quarts de finale. Fred, je te rends la parole, je sanctuarise une minute pour toi pour répondre à Daniel et Kevin qui stigmatisent peut-être le jeu rudimentaire des Marocains pour celui-ci en quart de finale. C'est pas leur football,
moi,
on l'a compris.
J'ai surtout parlé de l'Espagne, mais bon.
Alors, je vais simplement dire, j'en ai que pour 30 secondes. Le problème, c'est que l'Espagne, aujourd'hui, a un jeu qui ne fonctionne plus et a un jeu qui n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que quand tout va bien, comme contre le Costa Rica, une équipe qui était passée totalement à côté de son match, il n'y a pas de problème.
Mais c'est pas l'Espagne qui l'avait fait passer à côté de son match.
Je termine.
D'accord.
Il y a 12 ans, l'Espagne était championne du monde. Depuis 12 ans, l'Espagne a joué 3 Coupes du Monde. En 3 Coupes du Monde, l'Espagne a gagné 3 matchs. Un match contre l'Australie, un match contre l'Iran, un match contre le Costa Rica. Cette façon de jouer au football ne fonctionne plus. C'est tout. En 12 ans, 3 Coupes du Monde, 3 matchs gagnés.
Pour les éliminer, il faut aller au péno les 3 dernières fois. Il n'y a que au péno qui perd.
Ce système-là n'a permis à l'Espagne de gagner que 3 matchs en 3 Coupes du Monde contre l'Australie,
pour les éliminer,
contre l'Iran,
Costa Rica. Sur les 3 dernières compétitions.
Mais ça qui les fait tomber. Moi je sais pas quoi dire. Là, si ce que je te dis là, ça te fait pas réfléchir, te dire, il y a peut-être un truc à changer dans le système de jeu espagnol.
Ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas un truc à changer. Forcément, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément de très grande qualité offensivement.
Vous êtes d'accord, c'est
complètement différent.
Quand un sélectionneur ne prend pas les deux meilleurs buteurs espagnols de la Liga,
les 3 dernières compétitions, tu ne les as battus qu'au péno. C'est simple, c'est clair et net, ça. Il n'y a que les pénaux pour les sortir.
Et puis c'est pareil.
Dans le jeu, ils sont tout le temps meilleurs, mais l'Espagne ne gagne pas non plus.
Daniel, à charge pour les Espagnols de ne pas aller jusqu'au tir au but aussi.
À charge pour eux, mais pas pour l'autre, en revanche. Pour l'autre qui joue de façon rudimentaire et qui n'a que ça comme stratégie, à lui, on n'a rien le droit de lui dire, Nico. C'est ça. Les Espagnols, on a le droit de leur tomber dessus, de dire vous êtes des tocards, vous jouez pas au foot, c'est plus une méthode pour jouer au foot. En revanche, Les autres, eux, on doit leur dire c'est très très bien de jouer de cette façon-là. Non, mais foutez de ma gueule ou quoi, les gars?
Vas-y,
Daniel, et puis il n'y a pas que ça. Attends, les gars, moi je suis d'accord pour dire que l'Espagne pourrait se réinventer parce que le jeu de possession, ça a du mal à être efficace depuis 3 Coupes du Monde.
Excuse-moi, on s'ennuie, Kevin, je suis désolé, mais vous vantez la qualité du jeu espagnol.
Parce que quand tu regardes le Maroc, tu vas pas t'ennuyer du coup.
J'ai pas dit ça non plus.
Un match, c'est une opposition.
Les gars, laissez-moi finir. Un match, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que si on dit qu'on s'ennuie avec l'Espagne, on peut dire aussi qu'on s'ennuie avec les équipes qui jouent défensives face à l'Espagne.
Mais il y a une chose
qui est sûre, c'est que l'Espagne, elle pourra pas jouer comme l'Angleterre, l'Espagne. Puisque déjà ils ont pas les gabarits, donc ils jouent, ils font ce qu'ils savent faire. Et déjà dans le football ou dans n'importe quel sport, faire ce que tu sais faire, c'est déjà une qualité, je trouve. Après,
on passe notre temps à mettre en avant les particularismes culturels, les formations, les façons de jouer, les choses qu'on adore. Parce que c'est l'Espagne, vous leur tombez dessus parce que les 3 dernières compètes, ils ont été battus au péno.
C'est vrai que c'est trop dur pour l'Espagne. Et pour répondre à Fred, et je finis là-dessus, on me dit que l'Espagne sait pas faire autre chose. Mais la France, ils savent faire quoi d'autre que jouer le contre-attaque? Et l'Angleterre, ils savent faire quoi d'autre que les attaques rapides? Chaque pays a ses particularités.
Nous sommes aujourd'hui dans un football de transition beaucoup plus direct qu'il y a 12 ans.
Et donc tout le monde doit jouer de la même façon, Fred?
Non,
Daniel, il faut une uniformité culturelle dans le monde.
Laissez-moi parler, les gars.
Attendez.
Nasreddine, vas-y.
Daniel, je t'aime bien, on va pas s'embrouiller, je veux juste qu'on remette les choses dans leur contexte.
Même si tu l'aimes bien, tu peux t'embrouiller avec lui.
Non, je l'aime bien, mais...
Daniel n'est pas rancunier, sache-le.
Écoute-moi, Daniel, tu parles d'une équipe qui s'est qualifiée une seule fois pour les huitièmes de finale dans son histoire en 86. Tu parles d'une équipe qui 9 fois sur 10 fait du très beau jeu et qui se fait éliminer. Rappelle-toi en 98, le Maroc a tapé l'Écosse 3-0 et la Norvège et s'est fait éliminer. Je t'invite vraiment après l'after à aller voir le résumé de Maroc-Chili. On a produit du super jeu.
Tu disais
qu'on a des joueurs de qualité, Ziyech, Hakimi, etc.
Mais ce que je te dis,
attends Daniel, laisse-moi finir. Ce que je te dis, c'est que on est un petit pays de football qui se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale. Donc, c'est le milieu de terrain de l'Espagne a étouffé le milieu de terrain marocain. C'est un fait. Donc, le Maroc a joué avec ses armes. Walid Regragui, c'était sa stratégie. et on pouvait pas faire autrement. Mais on est un petit pays.
Attention à ne pas mettre en corrélation le Maroc et l'Espagne. Là, pour l'instant, on parle de l'Espagne.
Ouais, voilà.
On parlera du Maroc
On parle de l'Espagne. Il faut pas que tu mélanges tout. Moi,
t'as parlé du Maroc comme aussi, j'ai dit Daniel,
tout à l'heure. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve en plus que le Maroc a vraiment des beaux joueurs de foot. Et il me semble, et tu as raison de le dire, c'était le choix sur ce match-là. Moi, je leur reproche pas d'avoir opté pour ce choix-là. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, contre le Portugal, ils refont la même et ils peuvent aller au bout en faisant la même. Ça, je n'y crois pas. Et s'ils le font, ben, je serais bien obligé. En fait, après, il y aura une distinction qui est claire et nette. C'était la même chose avec le Portugal en 2016.
En 2016.
Il y a un truc dans le football c'est l'émotion, l'analyse. Quand tu es neutre et quand tu n'es pas neutre. Donc, tu comprends bien que tu n'auras pas le même regard que quelqu'un de neutre sur la performance. Moi, je respecte et je comprends ton émotion. Par exemple, je disais pendant la pub à Kevin, l'année dernière, quand l'Italie sort l'Espagne au péno, je suis quand même assez lucide, et Dieu sait que la victoire m'a fait plaisir, je suis quand même assez lucide pour me rendre compte qu'à partir de la 46e, alors que le plan de départ était de jouer, de mettre du pressing, mais qu'après, l'Italie a pas vu la balle pendant la deuxième mi-temps et encore moins pendant la prolongation. C'est juste qu'à un moment, t'es mangé. Tu t'en sors autrement. Très bien. Là, carrément, c'était le plan de départ, de refuser le ballon, de jouer autrement. Moi, qui suis neutre et qui regarde, ça ne me plaît pas, mais je respecte ton émotion à toi. Je sais pas quel âge tu as, et je sais pas si tu as des enfants.
J'ai 38 ans. On parle pas d'émotion, on va parler analyse.
Je vais terminer avec un parallèle, si tu permets. L'analyse objective et l'émotion. Si tu as des enfants, quand ton enfant de 5 ans, il t'apporte son premier dessin, qui est un vieux gribouillage pourri, tu vas être hyper ému. Ça va t'émouvoir, ça va te toucher, ou quand ta fille, dans le gala de danse de fin d'année, elle va danser, tu vas dire, mais c'est magnifique, t'es ému, parce que c'est ta chair, c'est ton sang.
Je suis d'accord avec toi, mais attends, laisse-moi terminer.
Tu vas être ému. Et pourtant, ta fille, elle est pas danseuse étoile, ton fils, c'est pas Picasso. Tu comprends la différence entre la raison et la passion, mais là tu n'as pas
le fan marocain qui te parle, tu as le journaliste marocain qui te parle. Je travaille pour 5 médias, je te parle en tant que journaliste. On n'avait pas un autre moyen pour gagner l'Espagne.
Ah mais moi j'ai pas dit ça. Moi, c'était par rapport à ce que tu m'as dit, on va le faire à tous les matchs. Je pense qu'à tous les matchs, ça va être compliqué pour le faire contre l'Espagne.
Comme ça fait le Portugal en 2016.
J'accueille Younes, Daniel, au 32-16. Salut Younes, supporter du Maroc.
Bonsoir,
Younes.
Salut. Bonsoir. Alors, supporter du Maroc et du TFC, donc comme ça, tout le monde me reconnaîtra. Donc ça fait 23 minutes que je suis au téléphone et que je vous entends parler, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de me laisser parler. Alors, pour répondre à Daniel, déjà première chose, le quart de finale, je vais le manger matin, midi et soir pendant 4 ans. Voilà, ça c'est le supporter qui parle. J'analyse pas le match.
Bien sûr.
Je parle en tant que supporter.
Oui.
Voilà, on est premier pays africain à sortir des poules en 86. On n'avait rien fait depuis, on était sur 9 défaites, 2 nuls, je crois. Enfin, c'était catastrophique en Coupe du Monde et on se qualifiait pas souvent. Là, on fait un quart de finale, c'est magnifique. Pour nous, c'est incroyable. J'ai plus trop de voix d'ailleurs. Ensuite, si on veut commencer à analyser, oui, je suis pas fan de ce football-là. Maintenant, je vais vous dire, si on avait marqué avec un but contre son camp ou quoi que ce soit, j'aurais été content de la même façon.
Évidemment.
Un but pourri, un but de raccro, un faux penalty, j'aurais été heureux. Voilà, parce que on n'est pas l'équipe de France. On n'est pas l'Espagne, on n'est pas le Brésil, on n'est pas une équipe qui sort des poules à chaque fois où c'est le minimum et la compétition commence à partir des huitièmes de finale. Nous, la compétition, elle commence dès la première minute du premier match. Contre la Croatie, on n'a pas joué comme ça contre l'Espagne. Contre la Belgique, même si on avait moins la balle, que contre la Croatie ou contre le Canada.
Non, vous avez fait un très beau match.
On a quand même pas joué comme ça.
Absolument.
Contre le Canada, on n'a pas joué comme ça, sauf en deuxième mi-temps où ça c'était la pression du résultat où on s'est un peu chié dessus en deuxième mi-temps et on les a laissés voilà. En défense, on a pris un but et c'est Aguerd qui le met. Voilà. Donc c'est pour dire que défensivement on est là. Je viens de regarder une stat tout à l'heure, Amrabat. Parce qu'on me parle du milieu espagnol, bravo, ils ont joué au ballon.
Amrabat, il a été extraordinaire. Extraordinaire.
Amrabat, il a gagné tous ses duels pendant 120 minutes.
Exactement. Il a été incroyable.
C'est impressionnant,
Younes,
de gagner.
Vas-y, je te laisse conclure, je te donne 20 secondes encore, Younes, ouais. Après, il faut qu'on parte en pause.
Donc,
20 secondes.
Donc, ce que je vous dis juste, on a laissé jouer l'Espagne comme ça. On ne jouera pas comme ça contre le Portugal. On ne peut pas jouer comme
ça. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais entendre, Younes.
Non, mais je vais t'expliquer tout simplement. Parce que tactiquement, les Espagnols, à part Asensio, il n'y a personne qui peut te mettre une frappe de 25 mètres dans la lucarne. Il n'y a que Asensio qui pouvait faire ça. Et il ne l'a pas fait.
C'est vrai.
Tu vois ? Contre le Portugal, ça peut venir de partout. Les frappes de l'extérieur de la surface, il y a au moins 6 joueurs qu'on peut citer qui peuvent te
si
mettre.
Si tu mets une grosse densité devant la surface, la frappe, elle va être dure à mettre. Hein.
Elle va être dure à mettre, je suis d'accord avec
Ils
toi.
Ils n'ont pas eu d'espace de frappe, les Espagnols, tout à l'heure. Hein.
Merci Younes. Younes, je te remercie d'avoir fait le 32-16. Désolé, tu pourras nous rappeler d'ici ce quart de finale.
Mais je suis d'accord avec tout
face au Portugal. Allez, on fait une pause, messieurs. Je remercie Fred. Bonsoir, Fredo. Tu es libéré.
Salut les amis.
Fin de Coupe du Monde pour toi. Très vite sur RMC. On te retrouve dans quelques jours. Merci également à toi, Nasreddine, d'avoir défendu tes arguments ici face
très,
à Daniel
très bon
et Kevin. Très bon, Nasreddine. Merci à toi, Nasreddine. On vient dans un instant. Je vous rappelle que le gagnant du jeu s'appelle Rémi, le jeu foot corner. Il remporte le maillot du Portugal, de la sélection portugaise.
Gagnez votre maillot sur RMC avec footcorner.com. Les maillots de vos équipes favorites et toutes les plus grandes marques de sport sont sur footcorner.com.
Allez, dans un instant, la suite de l'After intégrale Coupe du Monde sur RMC. Il est 22h58 à Paris, minuit 58 ici à Doha. L'équipe de France au programme. On va parler des infos du jour. Mbappé absent de l'entraînement. Que serait un mondial réussi pour les Bleus maintenant qu'ils sont en quart de finale face à l'Angleterre? Rappelez-nous 32-16. On en parle, on en débat dans l'After. À tout de suite.
RMC After Foot
intégrale Coupe du Monde.